France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Deux grands titres à la une de l'actualité en ce mardi 7 janvier 2025. D'abord l'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015, attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher. Les hommages se poursuivent et nous serons en direct dans quelques instants de l'Hypercacher avec William Delesseux. Et puis nous avons appris il y a quelques instants la mort de Jean-Marie Le Pen à l'âge de 96 ans. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
C'est la figure historique de l'extrême droite française qui disparaît.
Oui, le fondateur du FN mort à l'âge de 96 ans. C'est sa famille qui l'annonce. Il était entré dans l'histoire notamment en allant au second tour. C'était en 2002 de l'élection présidentielle.
On va y revenir longuement dans ce 13-14, notamment avec notre confrère Philippe Collin qui lui a consacré un podcast sur France Inter. Nous reviendrons également sur les hommages à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, non seulement en direct dans les rues de Paris, mais nous verrons également que cet hommage vit aujourd'hui partout en France, à Toulouse ou encore à Châlons-en-Champagne, où l'une des figures de Charlie, le dessinateur Cabu, est toujours honorée. Et puis avec notre invité Michel Catalano, l'imprimeur de Dammartin, c'est le titre de l'ouvrage qu'il publie aujourd'hui, l'homme qui fut le dernier à parler au frère Kouachi. J'attends vos appels pour lui, 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. Voilà, vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Nous allons donc commencer par cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes seulement. C'est la famille de Jean-Marie Le Pen qui communique donc sur sa mort aujourd'hui. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour Jérôme.
Service politique de France Inter. On savait Jean-Marie Le Pen à 96 ans affaibli et donc sa famille annonce à l'instant sa disparition.
Oui, tout à fait. Jean-Marie Le Pen, lui qui est né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer d'un père patron pêcheur, d'une mère couturière. En effet, le diable de la République est décédé en ce 7 janvier 2025. Il était déjà placé sous tutelle. Marine Le Pen, sa fille, avait pris le relais, avait pris des décisions pour lui, avait déjà vendu sa maison. Et il était ces derniers mois, ces dernières semaines, en grande difficulté pour s'exprimer. Il n'a pas pu être au procès de Marine Le Pen, des assistants parlementaires ces dernières semaines. Il était chez lui, à l'isolement, un moment hospitalisé. Beaucoup de moments, on s'est dit que la mort de Jean-Marie Le Pen était imminente. Sa fille a finalement s'est réconciliée avec lui assez tardivement, après la rupture de 2015, le parricide. Elle l'a exclu de son propre parti après ses nombreux dérapages et son nouveau dérapage sur le maréchal Pétain, sur l'apport du maréchal Pétain à la France. Jean-Marie Le Pen est donc décédé de sa famille, c'est sa famille qui l'annonce en ce 7 janvier. Il était ces dernières années retiré de la vie politique depuis la fin de son mandat de parlementaire européen en 2014.
Vous parliez de Marine Le Pen, sa fille qui est actuellement en visite avec une délégation d'élus du Rassemblement National dans l'archipel de Mayotte. Elle doit d'ailleurs quitter Mayotte.
Elle est dans l'avion.
Aujourd'hui, hein, Élodie Forêt, elle est dans l'avion. Jean-Marie Le Pen, c'est l'homme qui a sorti, Élodie Forêt, l'extrême droite française de la condamnation absolue qui pesait sur elle depuis la collaboration. C'est l'homme qui a relancé l'extrême droite avec le Front National devenu Rassemblement National.
Oui, c'est l'homme qui, en fait, a été choisi à l'époque par le groupuscule Ordre Nouveau pour être une nouvelle vitrine de l'extrême droite. Alors, ça va mettre quelques années. Hein. Au début, c'était pas très fructueux. Et le Front National, puisque c'était son nom, a mis du temps en fait à sortir de cette espèce de groupuscule, d'état groupusculaire dans lequel il était à l'époque. Jean-Marie Le Pen, c'est lui qui a beaucoup œuvré aussi à réunir en fait toutes ces chapelles de l'extrême droite pour sortir donc l'extrême droite, je vous le disais, de cette condamnation post-Algérie française. Il y a eu plusieurs épisodes en fait qui marquent justement cette accession du Front National à un autre niveau politique. Pour nos auditeurs qui ont peut-être un peu de mémoire, on se rappellera de 1983, Dreux, la liste d'alliance avec la droite. Il y a eu évidemment 1986, les portes de l'Assemblée qui s'ouvrent à une trentaine de députés frontistes avec Jean-Marie Le Pen à leur tête. Et puis évidemment, c'est 2002, c'est le coup de tonnerre du 21 avril.
C'est ça, c'est l'expression de Lionel Jospin, éliminé au premier tour.
Exactement, lui qui était, Jean-Marie Le Pen, l'éternel candidat à toutes les élections, hein, législatives, européennes, régionales, va se retrouver au second tour. C'était sa quatrième tentative à la présidentielle. Il se retrouve face à Jacques Chirac. Et c'est à ce moment-là, finalement, que le FN entre dans l'histoire de la 5e République.
Jean-Marie Le Pen, qui est donc parvenu pour la première fois, hein, pour un candidat de l'extrême droite française au second tour de l'élection présidentielle, performance que sa fille rééditera plusieurs années plus tard, mais il n'y a pas eu de transmission linéaire et simple entre les deux Élodie Forêt. Cela a même tourné au bras de fer, au combat, et ça s'est terminé devant la justice.
Ça s'est terminé devant la justice, et puis alors on parlait de 2015 pour toute autre chose aujourd'hui, puisqu'on commémore l'attentat de Charlie Hebdo, mais 2015 c'est aussi l'année où Marine Le Pen va exclure son père du parti familial de président d'honneur, donc il est exclu, et c'est ainsi que ça va se retrouver devant la justice. Marine Le Pen, en fait, depuis des années, depuis qu'elle a conquis le pouvoir, elle a conquis la tête, la présidence du FN, et là non plus, c'était pas une partie de plaisir, puisque c'était le dauphin de Jean-Marie Le Pen qui était face à elle, Bruno Gollnisch. Marine Le Pen a tout fait, justement, pour éliminer, pour en tout cas, pas pour lisser l'image du Front National, pour sortir des outrances de Jean-Marie Le Pen, parce que c'était beaucoup ça aussi, il faut le rappeler, Jean-Marie Le Pen, c'était des énormément d'outrances, de propos condamnables et condamnés par la justice, de propos antisémites, et Marine Le Pen, depuis des années, fait tout un travail d'aggiornamento, ça c'est son mot, c'est son expression, pour transformer le parti familial, pour transformer le parti de son père, évidemment, en transformant aussi le nom de Front National à Rassemblement National.
Et pour faire oublier ces multiples condamnations, bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Service police-justice de France Inter, vous nous avez rejoint, multirécidiviste de l'incitation à la haine et du négationnisme, Jean-Marie Le Pen. La justice était aussi intéressée à ces dossiers financiers.
Oui, alors la première grande affaire médiatique remonte aux années 80. On est sur un plateau télé et Jean-Marie Le Pen assène que les chambres à gaz ont été, je cite, un détail de la Seconde Guerre mondiale. Première condamnation judiciaire à l'époque à 1 franc symbolique au civil. Puis les lois se durcissent, la provocation à la haine devient un délit et le député Front National enchaîne les condamnations pénales. En 1998, ce ne sont plus des paroles mais des actes. Jean-Marie Le Pen est condamné pour violence pour avoir agressé la candidate socialiste sur le marché de Mantes-la-Jolie. En appel, la peine est réduite à 1 an d'inéligibilité, ce qui n'a donc pas entravé son parcours politique. La justice s'est aussi intéressée au patrimoine de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, une enquête pour fraude fiscale est toujours en cours. Son domaine de Saint-Cloud avait été perquisitionné dans l'enquête sur les assistants des eurodéputés du Front National. Jean-Marie Le Pen devait être jugé, hein, pour détournement. C'est lui qui était accusé en fait d'avoir été le premier à mettre en place le système de détournement de fonds du Parlement européen pour lequel 24 prévenus, dont sa fille Marine Le Pen, ont été jugés à la fin de l'année dernière. On attend le jugement le 31 mars prochain. Mais le tribunal correctionnel de Paris avait acté le fait que Jean-Marie Le Pen n'était plus en état d'être jugé.
Merci Sarah Guibaudeau pour ces précisions. Jean-Marie Le Pen, entouré des siens, a été rappelé à Dieu ce mardi à midi. Voilà la teneur du communiqué transmis à l'agence France Presse par sa famille, donc peu avant 13h. Jean-Marie Le Pen, qui est donc mort à l'âge de 96 ans à Garches, dans le département des Hauts-de-Seine, dans un établissement dans lequel il avait été admis il y a plusieurs semaines. Nous reviendrons et plus longuement avec notre confrère Philippe Collin dans quelques minutes sur la disparition de Jean-Marie Le Pen. Mort un 7 janvier, c'est bien l'ironie de l'histoire aussi, parce que Jean-Marie Le Pen a été brocardé combien de fois par le journal Charlie Hebdo massacré, ensanglanté il y a 10 ans, jour pour jour, dans cet attentat commis par les frères Kouachi, avant que 2 jours plus tard, Amédi Coulibaly ne s'en prenne à l'hypercacher et ne tue 4 Français de confession juive. Les hommages ont donc débuté en fin de matinée, d'abord donc devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, puis sur le boulevard Richard Lenoir, où fut abattu le policier Ahmed Merabé. Et dans quelques minutes maintenant, l'hommage va débuter devant l'hypercacher de la Porte de Vincennes, où vous vous trouvez, William Delesse. Bonjour William.
Bonjour Jérôme.
Hommage qui va débuter dans quelques instants.
Eh bien, l'hommage vient de s'achever actuellement. Il est encore en cours, cet hommage, effectivement, devant cette enseigne que voilà, que se tient ce 3e hommage de la journée. Il y a des fleurs qui viennent d'être déposées devant la porte. Emmanuel Macron et Anne Hidalgo sont sur place. Ils s'avancent à l'intérieur de l'hypercacher. C'est donc ça, la suite de cet hommage qui se tient devant nous. Il y a donc 10 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 9 janvier, 4 victimes étaient tuées lors de cette prise d'otage dans le supermarché parce qu'elles étaient juives. Les familles de victimes se sont donc rassemblées ici avant l'arrivée des élus. Et juste avant, il y a eu pour Emmanuel Macron et Anne Hidalgo et tous les élus qui sont ici un hommage boulevard Richard Lenoir dans le 11e arrondissement à Ahmed Merabé, le policier, 12e victime des terroristes après leur assaut contre Charlie Hebdo.
Et donc, avant cela, William, les hommages avaient donc débuté devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, hommage sans prise de parole officielle.
Effectivement, mais beaucoup de recueillement rue Nicolas Appert. Devant ces anciens locaux de Charlie Hebdo, les noms des victimes ont été rappelés au début de cette cérémonie. L'Assemblée s'est tenue debout devant ces anciens locaux. Un nom en plus cette année a été égrené, celui de Simon Fieschi, webmaster du journal, grièvement blessé au moment des attentats, retrouvé mort l'année dernière. Les représentants de chaque famille de victimes ont déposé une gerbe de fleurs au pied de ce numéro 10. Emmanuel Macron s'est tenu avec Brigitte Macron face à l'entrée du bâtiment. Et il y avait donc derrière eux toutes ces familles de victimes, dont Federica Wolinski, l'une des filles du dessinateur George Wolinski, qui était là.
C'est un moment de communion avec ceux qui sont restés, ceux qui sont là. Et aujourd'hui, c'est pas forcément triste, parce que c'est bien que 10 ans plus tard, on puisse encore si bien se souvenir de tous ceux qui sont morts le 7 janvier.
C'est pas... Et derrière des barrières se trouvent également des passants. Isabelle, enseignante, habite encore ici, dans une résidence juste en face des anciens locaux de la rédaction. Elle habitait là en 2015 et elle est là aujourd'hui.
Voilà, je suis venue parce que je pense que tout le monde devrait venir et que parce que voilà, ça m'a bouleversée, que c'est encore, il y a déjà 10 ans et j'ai du mal à croire que ça fait déjà 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Enfin, c'est un drame qui devrait tous nous toucher encore, et j'ai l'impression que...
Et une minute de silence a été observée. C'est tout le quartier qui s'est alors figé avant que la Marseillaise ne retentisse.
Merci William Delesse, avec les moyens techniques de Florent Bujon. Marseillaise donc ce matin devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris. L'hommage à la policière tuée à Montrouge, Clarissa Jean-Philippe. Lui, cet hommage se déroulera demain dans cette commune limitrophe de Paris. Tout près de là où vous vous trouvez, William, dans les communes de Vincennes, Saint-Mandé et Fontenay-sous-Bois, des étoiles de David ont été taguées sur une quinzaine d'immeubles hier. Pas de lien entre ces affaires à ce stade, selon le parquet, qui a ouvert une enquête. Et puis à Rouen, 4 tags antisémites découverts ces derniers jours sur la synagogue et sur la résidence du rabbin, nous dit la présidente de la communauté juive de Rouen, qui a déposé plainte. Ça, c'est une image de la France 10 ans après Charlie. Et puis il y a aussi tous ces kiosques dans lesquels le numéro anniversaire, je vous en ai parlé hier, ce numéro de Charlie Hebdo est en vente depuis ce matin. Caroline Félix, vous êtes rendue à Paris, place de la République, et vous avez rencontré des lecteurs qui tenaient à acheter ce numéro.
Merci. Voilà. Anna, une Italienne, repart du kiosque avec un exemplaire de Charlie. C'est une lectrice régulière.
Ça me fait rire parfois, ça me fait penser, ça me fait réfléchir. Oui, il y a plein d'émotions.
Ce numéro spécial, elle y tenait particulièrement. Sur la couverture jaune, un lecteur hilar avec une Kalachnikov dans le derrière, avec écrit « increvable ».
Vous savez ce que ça veut dire ? Oui. Qu'on ne peut pas... Oui, ouais.
C'est important pour elle que Charlie vive.
C'est un peu un miroir d'une partie de la France. Oui. C'est un moyen pour voir des choses que parfois on ne veut pas regarder. Parfois l'ironie est plus utile pour apprendre des choses comme ça.
Jean-Claude aussi repart avec ce Charlie Hebdo Collector. C'est un lecteur moins assidu, mais il avait défilé il y a 10 ans Place de la République pour soutenir Charlie.
Même si je ne le finance pas tous les jours, au moins de les soutenir moralement.
Mais ça vous fait rire, Charlie ?
Oui, oui, bien sûr, oui. On n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui est dit, mais c'est la liberté de la presse. C'est l'esprit de liberté, d'irrévérence, de tout ce qu'on a hérité de 200 ans d'un peu de révolution, on va dire. En plus, maintenant, les esprits tendent à se rétrécir.
Le kiosque en a vendu une 20aine depuis hier, y compris à des clients venus d'autres quartiers spécialement pour l'acheter.
En reportage, Caroline Félix. Dans les kiosques aussi aujourd'hui, à côté de ce numéro, il y a tous vos journaux qui rendent hommage aux morts de Charlie Hebdo et notamment au dessinateur assassiné ce jour-là. Cabu, dont nous reparlerons plus longuement dans un instant, mais aussi Charb, Honoré, Tignous et Volinsky, plusieurs quotidiens, font leur une avec des caricatures et des dessins de presse aujourd'hui. C'est le cas de la Pêche du Midi, et pas à moitié, un dessin pleine page, c'est rarissime, signé De Dieu. On y voit un homme debout sur une pile de journaux se hisser au-dessus d'un mur pour regarder le paysage.
On a un public à la Dépêche qui n'est pas celui de Charlie, et donc on n'allait pas faire du Charlie. Et on a fait, on va dire, de la Dépêche. On a essayé justement de dire, on va faire une image qui se passe de mots. Et moi, je trouve que l'intérêt, il est là, c'est le lecteur qui va comprendre exactement ce qui se passe. On va pas lui dire, voilà ce qu'il faut lire, c'est à lui de faire sa propre analyse. J'espère que, à la voyant, on comprend tout de suite, donc que la personne peut voir l'horizon plus facilement, sans esprit étriqué, grâce à l'information et grâce aux journaux. Tout d'un coup, avoir une idée plus vraie de ce qui se passe et peut-être voir des choses qu'on ne verrait pas si on a une seule information.
Le dessinateur De Dieu au téléphone de Clémentine Sabrier-Toulouse, la ville d'origine de l'économiste Bernard Maris, membre de Charlie Hebdo et que personne n'a oublié à France Inter. Toulouse où un hommage a eu lieu en fin de matinée, tout comme à Aix-en-Provence ou encore à Limoges, entre autres. Et puis derrière les unes, une fois ouverts les journaux, Charlie et les autres, il y a les débats. Celui lancé par le ministre de l'Intérieur, par exemple, Bruno Retailleau, qui se dit favorable aujourd'hui à une extension de la loi de 2004 pour interdire aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires de leurs enfants au nom, dit-il, de la lutte contre l'entrisme des frères musulmans. Reste à trouver une majorité pour voter un tel texte. La mémoire, elle aussi, de ces attentats islamistes est au cœur des discussions. Avec cette question, faut-il, en plus des lieux de mémoire qui existent déjà, créer un mémorial du terrorisme ? Emmanuel Macron l'avait annoncé, projet abandonné. Se sont indignées les associations il y a quelques semaines, estimant que Matignon avait tiré un trait de plume sur ce projet sans que le président de la République ne dise mot. Julien Nenni, le voilà qui sort de son silence un mois plus tard pour sauver le projet.
Oui, après un mois de flottement au sommet de l'État, Emmanuel Macron a fini par trancher. Le projet ira bien à son terme avec une ouverture prévue en 2027. C'est le dernier rebondissement d'un rude bras de fer financier et mémoriel en coulisses. Bras de fer financier d'abord parce que ce musée du terrorisme coûte cher. Une centaine de millions d'euros étalés sur plusieurs années. Alors en fin d'année dernière, pendant que le Premier ministre d'alors, Michel Barnier, cherche à faire des économies partout, son cabinet envisage sérieusement un coup de rabot. Avec aussi un autre argument, le concept éducatif du musée est jugé par certains pas assez pédagogique ou même d'un glauque absolu selon une source proche du dossier. En cause par exemple, l'idée d'exposer les kippas des enfants assassinés par Mohamed Merah à Toulouse en 2012. Est-ce le meilleur moyen d'inciter des écoles à y organiser des sorties de classe à l'avenir, la question fait débat. Ajoutez à cela le lieu choisi pour construire le musée, le Mont Valérien à l'ouest de Paris où est déjà célébrée la résistance. Certaines associations craignent que la mémoire du terrorisme n'efface progressivement celle de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, c'est donc bien au Mont Valérien que le musée verra le jour. Enfin, sauf nouveau rebondissement d'ici là.
Julien Nenni, parmi les lieux qui gardent la mémoire des victimes de Charlie Hebdo, il y a Châlons en Champagne. C'est la ville natale de Jean Cabu, dit Cabu, mort il y a 10 ans à 76 ans, anarchiste amateur de jazz. base dessinateur du Club Dorothée dans les années 80, mais aussi de plusieurs caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo en 2006. À Chalon a été inaugurée il y a 6 ans la Duduchothèque, du nom de l'un de ses personnages, le Grand Duduche. Une nouvelle exposition y sera dévoilée cet après-midi, Sophie Constanzer.
Lors de l'inauguration du lieu le 3 décembre 2018, Véronique Cabu a expliqué la raison d'être de la Duduchothèque.
Chalon, c'est là où tout a commencé pour Cabu. D'abord, c'est là où il est né, le 13 janvier 1938, et c'est là où il a choisi d'être enterré. Et il fallait que les dessins de jeunesse reviennent à Chalon, parce que c'est là où tout a commencé.
Le lieu a reçu les rires de plus de 50 000 visiteurs depuis. Avec cette exposition, à chaque fois un autre thème, les lignes de presse, les comédiens ou encore les présidents, celle qui a eu le plus gros succès et le fonds de dessins mis à disposition par la famille de Cabu est en quelque sorte infini, souligne Emmanuelle Guillaume, adjointe à la culture de la ville de Chalon.
C'est un vrai luxe d'avoir le choix. Et chaque année, effectivement, dans chaque exposition, aucun des dessins n'est de nouveau exposé. On a à chaque fois, effectivement, l'unicité dans chaque exposition d'un dessin. On va chercher à chaque fois un fonds qui s'enrichit au regard du fonds dont on dispose.
Ce qui est illimité aussi, c'est le nombre de craies, stylos, crayons mis à disposition du public comme un symbole, et notamment des scolaires, l'autre cible de la Duduchothèque.
Son dessin, on y voit tout le temps une histoire, on y voit toujours un message du premier degré à ensuite on peut aller chercher d'autres choses. Et c'est ça tout l'intérêt de la Duduchothèque, c'est un lieu de médiation, un lieu d'apprentissage.
Et puis la Duduchothèque est régulièrement visitée par des jeunes dessinateurs qui voient toujours en Cabu le patron du dessin de presse.
Et cette exposition, inaugurée donc cet après-midi, va s'intituler « Cabu, un homme libre ». C'est une information signée Sophie Constanzer de Ici, ex-France Bleu Champagne. J'ajoute que ce matin, le chancelier allemand Olaf Scholz a écrit sur les réseaux sociaux « Partager la douleur de nos amis français ». Fin de citation. Cette journée spéciale, Charlie Hebdo, 10 ans après, se poursuit sur Inter à 15h avec Affaires Sensibles ainsi que dans le 18-20. Elle se prolonge également sur France Inter.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Je reviens à l'information qui nous est parvenue juste avant 13h, la mort à l'âge de 96 ans de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, devenu Rassemblement National, qui s'est éteint donc à Garches, près de Paris, là où il vivait depuis quelques semaines. Réaction de Jordan Bardella à l'instant. Il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté. Fin de citation pour les mots du président du Rassemblement National. Disparition donc annoncée par la famille même de Jean-Marie Le Pen, à l'heure où sa fille Marine, elle, rentrait de Mayotte, où elle était en déplacement ces derniers jours. Et vous suivez ce déplacement de Marine Le Pen. Pierrick Bonneau, bonjour Pierrick.
Nous, les journalistes, nous avons... Bonjour Jérôme.
Le déplacement, le vol était en cours lorsque on a appris la mort de Jean-Marie Le Pen, et vous êtes à l'instant en escale à Nairobi, c'est bien cela Pierrick?
Oui, en fait, nous avons atterri il y a une heure maintenant à Nairobi, au Kenya, pour une escale technique avant de rejoindre Paris. Nous avons rallumé nos téléphones, les journalistes qui sont dans l'avion et qui accompagnent Marine Le Pen. Et nous avons vu évidemment la dépêche de l'agence France Presse, de l'AFP, qui nous disait que Jean-Marie Le Pen était mort. Marine Le Pen n'était pas au courant. Ce sont en fait nous, les journalistes, qui avons informé la chef des députés du RN par l'intermédiaire de son attaché de presse qui est présente dans l'avion avec nous. Marine Le Pen s'est entretenue avec Louis Alliot, le député, le maire de Perpignan qui l'accompagne dans cette visite. Puis elle est allée dans le cockpit pour pouvoir se connecter, pour pouvoir connecter son téléphone et échanger, on l'imagine, avec sa famille. C'est donc une surprise puisque rien ne disait depuis 2 jours. En tout cas, nous n'avions pas d'informations par l'intermédiaire de Marine Le Pen qui nous indiquait que Jean-Marie Le Pen n'allait pas bien, qu'il était effectivement dans une situation critique. C'est la surprise. Visiblement, puisque même Marine Le Pen est apparue le visage fermé, certes, mais littéralement surpris, hein, je pense. Elle est de nouveau à sa place à l'avant de l'appareil actuellement. Et nous allons décoller dans la demi-heure, arrivée prévue de Marine Le Pen à Paris aux alentours de 23h ce soir, heure de Paris.
Ça veut dire, Pierrick Bonneau, si je comprends bien, que la famille de Jean-Marie Le Pen a pris la décision de communiquer sur sa mort sans en avertir Marine Le Pen?
C'est exact, Jérôme. Je peux vous assurer que Marine Le Pen n'était pas au courant, puisqu'effectivement, ce qui s'est passé, en fait, je vais vous raconter les détails, c'est que l'attaché de presse de Marine Le Pen a photographié mon téléphone sur lequel étaient affichées les alertes de l'agence France Presse pour pouvoir montrer cette photo à Marine Le Pen. Marine Le Pen n'était donc pas au courant du tout. Effectivement, ça veut dire que la famille, probablement celle qui entoure aujourd'hui plus proche que l'est Marine Le Pen, qui entourait Jean-Marie Le Pen dans les derniers jours de sa vie, a pris l'initiative effectivement d'informer la presse avant que Marine Le Pen ne puisse le faire, et avant même que Marine Le Pen ne soit au courant. Effectivement, on pourrait imaginer que la famille ait pu attendre quelques heures, en tout cas attendre au minimum que Marine Le Pen puisse arriver en France. Ce n'était pas le cas, ce qui dit peut-être aussi beaucoup de l'ambiance et peut-être des tensions qui règnent actuellement dans la famille Le Pen.
Vous êtes donc en route, j'allais dire, vers l'Hexagone, Pierrick Bonneau. Décollage dans une demi-heure, c'est ça pour Marine Le Pen, et retour en métropole
dans les minutes qui viennent.
Voilà, et retour en métropole.
Prévu à 23h heure française. On imagine qu'on pourra la croiser. Nous ne l'avons pas vue, nous n'avons pas pu lui parler. Ouais. Je vous dis, elle est partie dans le cockpit aussitôt que la nouvelle avait été portée à sa connaissance. Elle est partie se rasseoir à sa place. Nous sommes à l'arrière de l'appareil. Marine Le Pen est en classe affaires à l'avant de l'appareil. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. On imagine effectivement que Marine Le Pen va peut-être venir nous dire un ou deux mots, soit pendant le vol, soit avant le décollage de l'appareil en direction de Paris.
Merci Pierrick Bonneau pour ces informations, vous qui êtes en direct de Nairobi, donc là où l'avion de Marine Le Pen a fait un stop de retour de l'archipel de Mayotte, où la présidente des députés Rassemblement National à l'Assemblée était donc en déplacement ces derniers jours. Nous serons rejoints par Philippe Collin, notre confrère, dans une minute, qui a signé ce podcast consacré à la vie de Jean-Marie Le Pen. Nous parlerons également à la fois de ses démêlés avec la justice et de ses problèmes de santé avec Delphine Evenou. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Qui nous rejoint dans ce 13-14. Avant cela, retour sur la longue carrière politique de Jean-Marie Le Pen, donc disparu à l'âge de 96 ans. Maxence Lambrecq, Le Pen, l'homme qui a réussi à amener l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle.
Il n'a cessé d'agiter, de choquer, de bouleverser le monde politique. Et le 21 avril 2002, il s'invite aux portes du pouvoir.
L'onde de choc Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier.
Il réussit alors à installer le FN dans le paysage politique français. Et 5 ans plus tard, Nicolas Sarkozy reprend certaines de ses idées.
Oui, mesdames et messieurs, 30 ans de critiques, de mépris, de caricatures de mes idées pour finalement les reprendre aujourd'hui in extenso et sans vergogne.
Jean-Marie Le Pen, éternel provocateur, multirécidiviste au sujet des chambres à gaz.
Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Adolescent à cette époque, son père, patron pêcheur, est tué par une mine allemande. Après-guerre, il monte à Paris, étudiant en droit proche de l'Action française. Il rejoint la Légion, participe à la guerre d'Indochine. À son retour, il devient le plus jeune député de France aux côtés de Pierre Poujade.
Monsieur Le Pen, vous parlerez dans le débat, je vous prie de vous taire pour l'instant.
Puis vient l'Algérie, 1957, il y traque les terroristes du FLN, les brutalise et les torture, peut-être, il l'a toujours nié. Il fédère ensuite toutes les chapelles de l'extrême droite, nostalgique de Vichy, partisan de l'Algérie française, le Front National voit le jour en 1972.
Il y a des gens d'opinions très différentes, mais on leur demande une seule chose, est-ce qu'ils aiment leur pays ? Voilà.
Les Français suivent alors le feuilleton Le Pen. L'attentat contre son appartement, sa femme à la une de Playboy, l'héritage Lambert, le poupouch de Bruno Maigret, les procès pour apologie de crimes de guerre ou incitation à la haine raciale, les soirées électorales à Montretout, puis l'ascension de sa fille, Marine, qui finit par l'exclure en 2015. Un spectaculaire parricide pour acter la dédiabolisation.
Être persécuté par la direction du mouvement que l'on a fondé, et quand la présidente de ce mouvement est sa propre fille, je crois que c'est assez éprouvant, en effet.
3 ans plus tard, le FN est devenu RN. La Benjamine s'est réconciliée avec son père. La petite fille Marion, elle, a quitté la scène politique. Lui, resté député européen jusqu'en mai 2019.
Parcours politique de Jean-Marie Le Pen, retracé par Maxence Lambrecq. Jean-Marie Le Pen, 96 ans, qui s'est donc éteint aujourd'hui. Il y avait eu plusieurs alertes ces derniers mois, plusieurs hospitalisations. À chaque fois, son entourage s'était voulu rassurant. On vous retrouve, Delphine Evenou, service police-justice de France Inter. La justice avait récemment donné des nouvelles de l'état de santé de Jean-Marie Le Pen.
Oui, une expertise médicale a été menée en juin dernier pour savoir si Jean-Marie Le Pen pouvait comparaître au procès du RN de cet automne, le procès des assistants parlementaires au Parlement européen. Et les deux experts
experts avaient conclu à, je cite, une extrême détérioration du sujet. Ils avaient mené un test d'évaluation cognitive. Sur les 30 questions, Jean-Marie Le Pen avait obtenu un score de 16. Or, quand ce résultat est inférieur à 24, eh bien, cela indique une altération des fonctions cognitives et une démence mesurée. Lors de cette expertise, il avait fallu crier les questions à Jean-Marie Le Pen, malgré son aide auditive, pour qu'il puisse les entendre. Les médecins avaient relevé une concentration de quelques minutes seulement, une fragilité cardiaque qui l'empêchait de s'éloigner de son domicile et puis un début de cancer de la vessie. Une expertise menée donc il y a 7 mois et depuis, on le disait, Jean-Marie Le Pen avait dû être hospitalisé quelques jours, c'était mi-novembre.
Merci Delphine Evenoux. Je reviens vers vous, Élodie Forêt, qui suivait le Rassemblement National pour France Inter. On a entendu Pierrick Bonneau, qui est avec Marine Le Pen, nous dire qu'elle n'avait pas été informée de la mort de son père, que ce sont les journalistes qui lui avaient appris cette information, ce qui paraît complètement incroyable, Élodie Forêt.
Oui, c'est surprenant parce qu'évidemment, il y a eu une grosse période après l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National, une grosse période où Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, effectivement, étaient fâchés. Il ne manquait jamais une occasion, excusez-moi, et il ne manquait jamais une occasion de la vilipender, notamment en public, mais il y avait eu une véritable réconciliation entre Jean-Marie Le Pen et ses filles qui, depuis maintenant quelques années, quelques temps, l'entouraient. Alors évidemment, il y a des gens qui sont plus proches de Jean-Marie Le Pen que ne sont aujourd'hui Marine Le Pen, notamment sa femme, Jeannie Le Pen, qui est à ses côtés et qui sûrement a dû prendre cette décision d'annoncer, peut-être aussi les autres filles de Jean-Marie Le Pen, Marie-Caroline et Yann Le Pen. Mais ça reste surprenant parce que il était ces derniers mois sous tutelle de ses trois filles et tout se passait, en fait, on avait vraiment l'impression qu'elle avait la main sur les décisions qui concernaient son père, sur ce qui pourrait se passer aussi pour les funérailles, pour les cérémonies d'hommage. Et là, ce que ça donne un tout petit peu comme impression, effectivement, aujourd'hui, en apprenant qu'elle n'était pas au courant et qu'ils ne l'ont pas attendue pour annoncer le décès, c'est qu'elle a peut-être moins la main que ce qu'elle pensait sur ce que vont être aussi les cérémonies et l'hommage rendu à Jean-Marie Le Pen. Juste pour préciser, Marine Le Pen, notamment, ne goûtait pas trop l'idée d'une cérémonie, d'un hommage qui aurait lieu à Paris, dans une église parisienne. Elle disait dans ces derniers temps qu'elle préférait un hommage plutôt discret, une des funérailles à Trinité-sur-Mer. À voir donc ce que ça donne et ce qui est décidé dans les jours à venir.
À la Trinité-sur-Mer, le fief de la famille Le Pen, on va y revenir dans les prochaines minutes. Marine Le Pen qui n'a toujours pas réagi officiellement, contrairement à Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Merci Élodie Forêt. Nous allons consacrer le prochain quart d'heure à cette disparition, la disparition de Jean-Marie Le Pen. Philippe Collin nous rejoint. Bonjour Philippe.
Bonjour Jérôme.
Avec nous dans quelques minutes, votre podcast Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Valérie Higounet sera là aussi, tout comme le spécialiste de l'extrême droite Erwan Lecoeur, et puis à partir de 13h45 Charlie Hebdo, 10 ans après, et l'homme qui a fait face aux frères Kouachi, personne ne l'a oublié dans son imprimerie de Dammartin en Goëlle, c'est Michel Catalano qui sera avec nous à partir de 13h45. À tout de suite.
France Inter présente Guide des parents d'aujourd'hui, un livre de Caroline Goldman.
Les enfants sentent tout et ont besoin de nos mots. Soyez optimistes, choyez votre bonheur, faites-les rire. Mais offrez-leur aussi des limites éducatives qui leur permettront de s'épanouir parmi les autres.
Guide des parents d'aujourd'hui de Caroline Goldman, un livre France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
De nouvelles pluies à l'ouest et encore des averses au nord.
Oui, de la Normandie vers les Hauts-de-France et les Ardennes, des averses persistent, parfois encore mêlées de neige avec du vent. Quelques averses aussi pour le nord-est. Le soleil brille en Corse avec du vent fort, soleil du Roussillon au sud des Alpes. Et on a une nouvelle dégradation qui arrive par l'ouest avec des pluies sur le sud-ouest qui remontent progressivement vers le sud de la Bretagne, le centre-val de Loire, puis le massif central. Elles seront plus marquées de la Vendée au nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au massif central ce soir. Il y aura du vent aussi qui se renforcera cette nuit. Des éclaircies résistent en région parisienne, en Champagne, et les températures baissent partout. 5 degrés à Lille, 7 à Mulhouse, Paris et Caen, 12 degrés pour Agen, 14 à Marseille, 16 à Bastia. Et demain, les pluies copieuses remonteront vers le nord avec du vent et au contact de l'air froid, attention, ce sera de la neige de l'est de la Normandie vers les Hauts-de-France et les Ardennes.
Météo toujours aussi froide. Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
À 13h33, 13-14, un peu bouleversé, c'est vrai. Aujourd'hui, nous devions être avec Michel Catalano à cette heure-ci, l'imprimeur de Dammartin en Goële, qui a fait face aux frères Kouachi il y a quasiment 10 ans, jour pour jour. Il sera avec nous dans une dizaine de minutes, mais nous allons consacrer les prochaines minutes à évoquer le parcours politique de Jean-Marie Le Pen, un homme qui a marqué les 4e et 5e République, pas uniquement la 5e République. Philippe Collin, à mes côtés, producteur à France Inter de podcast, le dernier consacré à l'affaire Dreyfus, et donc ce podcast Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale, en ligne avec nous également, Erwan Lecoeur. Bonjour Erwan Lecoeur.
Bonjour.
Sociologue, politologue également, spécialiste de l'extrême droite. Avant de vous faire réagir tous les deux, je voudrais qu'on écoute Jean-Marie Le Pen s'exprimer précisément sur l'extrême droite et ce qu'elle dit pour lui.
Il y a dans notre Front National des gens qu'on peut résolument ranger sous le titre d'extrême droite et qui d'ailleurs en sont fiers, et il y a aussi des gens de droite. Nous sommes la droite populaire, qui est tentée sur les valeurs traditionnelles qui, à nos yeux, ont fait les 2000 ans de notre histoire. Nous sommes la droite sociale, qui ne sépare pas l'amour de la patrie de l'amour de son peuple. Nous sommes aussi la droite nationale, qui, pour qui le culte de la patrie est la forme la plus élevée de la solidarité entre les hommes de notre peuple.
Philippe Collin, réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Eh bien, il dit tout. Il dit d'où il vient. Il dit qu'il est national-populiste, qui est son courant de pensée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jean-Marie Le Pen estime que le peuple français, on pourra dire un peu ce que le peuple français à ses yeux, est souvent trahi par ses élites, et que de ce peuple va naître un sauveur. Un peuple à la fois biologique pour Jean-Marie Le Pen, donc on parle d'un héritage plutôt sanguin, entre guillemets, de peuple de sang. Et donc, de ce peuple va naître un sauveur, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen, mais pas que, il appartient à une longue lignée. Général Boulanger, Charles Maurras, Philippe Pétain, Jean-Marie Le Pen sont là pour protéger la France. Et donc, c'est intéressant parce qu'il s'inscrit donc contre les valeurs de la Révolution française. C'est important de le dire tout de suite parce que, en effet, Jean-Marie Le Pen a joué le jeu de la République, évidemment, 4e, 5e République, élu député très jeune, mais néanmoins, son héritage est contre-révolutionnaire, disons-le clairement. Il est donc réactionnaire, comme on dit, et il porte ça en lui quasiment jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a une mutation, est-ce un visage masqué ou pas du RN, mais en tout cas, c'est un peu différent. Mais donc, lui appartient à cette longue lignée du national-populisme, et d'ailleurs, c'est intéressant, vous savez, par exemple, le Front National. Pourquoi ça s'appelle le Front National ? C'est très important, Jérôme, parce que dans les années 30, face au danger du Front Populaire, l'extrême droite française avait créé une plateforme qui s'appelait le Front National, pour s'opposer au Front Populaire. Et Jean-Marie Le Pen, de manière très malicieuse, entre guillemets, avait repris cette terminologie. Donc voilà, il est inscrit dans une longue tradition, je dirais clairement contre-révolutionnaire.
Erwan Lecoeur, vous diriez que Jean-Marie Le Pen, c'est l'homme qui a permis à l'extrême droite de revenir dans le débat politique, elle qui était marquée au fer rouge par les horreurs de la collaboration ?
Oui, tout à fait. C'est celui qui a organisé d'abord avec Poujade dans les années 50, ça a été rappelé, la première... la réminiscence d'un poujadisme à la française, de ce que on essaie, qui était un national-populisme poujadiste, donc les petits, les sans grade, pas petit de s'insérer. Et puis ensuite, il a également accompagné plus tard, après être parti en Algérie, il est revenu, il a accompagné Tixier-Vignancourt dans les années 60, qui était l'autre, je dirais, figure de l'extrême droite française, pour le coup tout à fait marquée à droite. Ensuite, il a marqué une pause, il a repris quelques études avec son mariage avec Pierrette, il a fait des enfants, dont Marine, et puis il a été appelé par les gens d'ordre nouveau qui voulaient créer un parti pour concourir aux élections, alors qu'il n'était qu'un groupuscule. Ordre nouveau, c'était un groupuscule extrêmement radical, et ils ont créé le Front National pour l'unité des Français. Mais FNUF, ce n'était pas très joli, et M. Collin le rappelait très bien, Front National, ça vient de Charles Maurras, en fait, 1934, qui voulait en effet créer ce Front National contre le Front Populaire. À l'époque déjà, on voyait bien qu'il y avait une opposition très très forte. Et Jean-Marie Le Pen est arrivé un peu, il n'était pas le premier choix de cette équipe, de cette bande au départ. Le premier choix s'est suicidé il y a quelques années à Notre-Dame, ça a été rappelé très bien sur France Inter aussi. Voilà, et Jean-Marie Le Pen a créé ce qu'on pourrait appeler, et c'est là-dessus que moi j'ai travaillé dans les années 90 et 2000, le lepenisme, qui était, je dirais, une forme de courant nouveau qui rassemblait les 14 ou 15 courants de la galaxie de l'extrême droite, parce qu'il y en a de très très différents entre eux, les monarchistes, les catho-traditionalistes, les néo-païens qui s'entretuent parfois même. Et Jean-Marie Le Pen a mis tout ce monde au pas avec un service d'ordre extrêmement précis, avec une faconde et une capacité populiste véritable. C'est un grand tribun, et ça a été le premier grand tribun, en fait, pour répondre à votre question, de la 5e République française, mais aussi en Europe et un peu dans le monde. Il a beaucoup copié Ronald Reagan et il a inventé un style, le lepenisme. Plus tard, on parlera du berlusconisme et d'autres ailleurs dans le monde, mais on voit bien que le lepenisme a été en effet un exemple pour beaucoup en Europe et dans le monde.
Il y a une expérience qui a beaucoup marqué Jean-Marie Le Pen, le soldat Jean-Marie Le Pen, c'est la guerre d'Algérie. Il l'évoquait il y a quelques années, on l'écoute et je vous fais réagir juste après.
Si on vous avait demandé, monsieur Le Pen, vous, de torturer, vous l'auriez fait ?
Si j'avais dû forcer par la violence des terroristes à m'avouer où étaient leurs bombes, je crois que je l'aurais fait, oui, je l'aurais fait sans scrupule, estimant que mon devoir de protéger la population civile et de sauver les vies humaines des innocents était très supérieur au devoir de respect d'un détenu criminel.
J'aurais volontiers torturé en Algérie, dit Jean-Marie Le Pen. L'a-t-il fait, Philippe Collin ? Question posée à l'historien.
Question difficile à l'historien, mais on peut dire aujourd'hui qu'il y a plusieurs témoignages qui confirment que Jean-Marie Le Pen a pratiqué la torture en Algérie. Ce qu'on peut dire, c'est que Jean-Marie Le Pen a sans doute torturé en Algérie jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que non seulement il valide, il cautionne la torture, ce qui est en fait un tortionnaire au niveau de la loi internationale, puisqu'il encourage à la torture. Donc le son qu'on vient d'entendre en fait un tortionnaire. Et je crois qu'on peut dire en effet que Jean-Marie Le Pen a dû sans doute avoir recours à cette... Je dis sans doute parce que ce n'est pas documenté, forcément. On ne documente pas la torture, donc c'est toujours compliqué. Mais pour l'historien que je suis en herbe...
On peut la documenter avec des témoignages.
Et ça existe. Il y a des témoignages dans les années 2000 qui ont témoigné que Jean-Marie Le Pen avait torturé en Algérie.
Valérie Higounet nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Historienne, co-directrice de Conspiracy Watch. Vous avez participé récemment à la série de France Culture, Histoire de l'extrême droite des ligues au Front National. On l'a entendu à l'instant dans la bouche même de Jean-Marie Le Pen. Il y a un goût de la violence chez Jean-Marie Le Pen. C'est peut-être aussi ce qui l'amène à cet engagement politique où il ne dédaignait pas de faire le coup de poing lorsqu'il était étudiant. Et c'est un fil rouge qu'on trouve dans tout son parcours politique.
Alors ça, c'est indéniable. Hein. Il y a un goût de la violence, j'allais dire, doublé d'un goût de la provocation, sans cesse, quoi. Et donc, ce sont deux choses qui vont très, très bien ensemble et qu'il sait, j'allais dire, manier, et qu'il a su, pardon, manier avec brio. Et ça fait partie, évidemment, de sa carrière politique.
Et c'est, pour passer maintenant peut-être à l'héritage de Jean-Marie Le Pen, quelque chose, Erwan Lecoeur, que sa fille, Marine, s'est employée à gommer année après année.
Alors, à la fois, elle a essayé de le gommer parce qu'elle savait bien que Jean-Marie Le Pen posait un problème aux nouvelles générations et qu'elle voulait séduire ces nouvelles générations de femmes, de jeunes et d'autres. Mais en même temps, elle s'en est beaucoup inspirée. Moi, dans les premières enquêtes que nous avions dans les années 2000, quand Marine Le Pen émerge, on voit bien qu'elle est très séduisante à l'égard de tout un tas de gens parce qu'elle ressemble à son père, mais en mieux. Ce que j'avais appelé l'effet Casimir, hein, c'est le monstre, mais le monstre en plus gentil. Et à l'époque, Casimir était le monstre gentil de la télévision française. Et donc, cet effet Casimir lui a permis de récupérer l'aura de son père dont on parlait à l'instant. Hein. Il a quand même créé un style politique en France. Il est une sorte de dinosaure qu'il se mettait au niveau un peu de Mitterrand ou de Georges Marchais à l'époque dans les années 80. Donc un dinosaure de la politique. Il rappelait les heures sombres, dures, difficiles de l'après-guerre également. Et elle a évidemment hérité de cela. Elle a pu en bénéficier tout en jouant sans arrêt cette saga Le Pen hein, qui nous a occupés pendant des dizaines d'années en France. La saga Le Pen, c'était une sorte de dynastie ou de Dallas national où ils se disputaient, mais ils se rabibochaient, mais ils se redisputaient. Et en réalité, Marine Le Pen a énormément bénéficié de ce que son père a créé, a fait pour elle, puisqu'il l'a entièrement protégée et il lui a fait hériter du parti et des réseaux et de tout un tas d'autres choses. Donc, il y a toujours une difficulté à dire que Marine Le Pen n'est pas son père, parce que certes, elle n'est pas son père, elle est née en 68, donc c'est différent, mais elle bénéficie de tout l'héritage de son père, à tous les niveaux,
et encore plus aujourd'hui, évidemment.
Et de l'héritage de l'expérience de la compétition électorale, Philippe Collin, on se souvient que Jean-Marie Le Pen est parvenu en 2002 à l'âge de 73 ans, quatrième candidature à l'Élysée au second tour de l'élection présidentielle. Mais on a souvent dit qu'au fond, il ne voulait pas du pouvoir, Jean-Marie Le Pen. Vous qui lui avez consacré un podcast entier, qu'est-ce que vous en diriez ?
Alors ça, c'est très difficile parce qu'il faudrait pouvoir sonder les reins, le cœur de Jean-Marie Le Pen. J'en sais rien s'il voulait le pouvoir ou pas. En tout cas, comment dire, il a failli presque l'avoir une première fois. On oublie ça, mais en 88, il est très bien lancé, Jean-Marie Le Pen. Et il va sortir des ignominies par rapport à la communauté juive.
Élection présidentielle de 1988.
Exactement, et qui va le mettre dans le mur. Mais alors, à l'époque, déjà, il avait presque réussi à convaincre une droite un peu dure de s'associer à lui. Et donc, c'est intéressant parce qu'en effet, peut-être que Jean-Marie Le Pen n'avait pas forcément tant que ça envie du pouvoir. Je n'en sais rien, je ne répondrai pas à sa place, certainement pas. Valérie Gounet, peut-être un mot à dire là-dessus.
Alors, c'est toujours cette dualité, c'est-à-dire là, vous parlez de 87 et du détail, on a un an de la présidentielle, on se dit bien que cette provocation, il sait quand est-ce qu'il l'a fait. Donc, et après, en 2002, moi qui ai interviewé beaucoup de personnes qui étaient avec lui à ce moment-là, au sein du Front National, il m'explique, et il m'expliquait encore il y a quelques semaines, cette mine interloquée, c'est-à-dire... mais c'est pas possible, quoi. Donc, on se le demandera toujours, je crois. Est-ce qu'il voulait réellement du pouvoir ? Moi, c'est une question que je me pose.
Que vous posez toujours.
Et j'en suis pas certaine, en tout cas.
Les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire. Voilà ce que dit Jean-Marie Le Pen, ce qui lui vaudra notamment condamnation en justice pour d'autres propos également, pas uniquement celui-là. Il nous reste une minute, Valérie Igounet. Un mot peut-être de ce que vous trouvez aujourd'hui dans le Rassemblement national de Marine Le Pen qui vous fait penser au Front National créé par son père Jean-Marie.
Alors, quand même, quelque chose pour avant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ses acolytes voulaient le pouvoir. Hein, je pense à ses numéros 2.
Ouais.
On parle de Stirbois en 83. On parle de plein de personnes. Ses numéros 2 voulaient absolument le pouvoir. Et ils ont œuvré pour l'avoir. Hein, même s'il y a eu scission avec Maigret, etc., etc. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du Rassemblement National par rapport au Front National ? Il est évident que je suis d'accord avec Philippe Collin. C'est-à-dire, évidemment, qu'il y a un héritage familial. Et c'est vrai qu'aussi, beaucoup de choses ont changé. Avant tout par rapport à la génération. Et puis Marine Le Pen est une femme et elle a su conquérir un électorat que jamais, justement, par cette violence dont vous parliez, Jean-Marie Le Pen avait pu conquérir. Donc après, il y a toute cette question de l'antisémitisme inhérente à la carrière de Jean-Marie Le Pen, quand même. Et c'est vrai qu'une de ses premières déclarations, ça a été de revenir, entre guillemets, sur ce point de détail en le contredisant. Donc l'héritage, il est là. Hein, on est toujours sur cette... extrême droite, même si ce serait un parti de droite, mais bon, le Front National dès 72 se disait un parti de droite nationale, sociale et populaire, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à dire et on n'a que quelques secondes.
Merci en tout cas d'avoir participé à ce 13-14 aujourd'hui au pied levé, si je puis dire. Valérie Gounet, merci d'avoir été avec nous, historienne, co-directrice de Conspiracy Watch. Merci à Erwan Lecoeur. Je renvoie Erwan Lecoeur à votre dictionnaire de l'extrême droite paru en 2007 et Face au FN, c'est en 2013. Merci également à Philippe Collin, le podcast Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale, toujours disponible. 13h47 sur Inter.
France Inter, Charlie, 10 ans après, le 13-14.
Nous suivons depuis ce matin sur l'antenne de France Inter les hommages qui sont rendus 10 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo. Et le lendemain, contre Clarissa Jean-Philippe, cette policière tuée par Amédi Coulibaly à Montrouge, puis les quatre Français de confession juive tués dans l'hypercachère. Nous étions tout à l'heure porte de Vincennes où l'hommage a eu lieu peu après 13h. Et ce jour-là, ce 9 janvier 2015, vous étiez face aux frères Kouachi dans votre imprimerie de Dammartin-en-Goël. Bonjour Michel Catalano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci de votre souplesse aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, d'avoir patienté quelques minutes. Mais on tenait absolument à partager votre témoignage avec les auditeurs et les auditrices de France Inter. L'imprimeur de Dammartin, c'est aux éditions du Cherche Midi, c'est le livre dans lequel vous racontez votre face-à-face, ce huis clos face aux frères Kouachi ce 9 janvier, deux jours donc après la tuerie de Charlie Hebdo, et vous racontez aussi, et j'ai envie de dire surtout, l'après ce que l'on connaît moins et qui a été extrêmement dur. On n'imagine pas à quel point, d'ailleurs, ça a été difficile pour vous de tenir, de rebâtir votre entreprise. Il se trouve, Michel Catalano, que vous êtes né un 7 janvier. C'est donc aujourd'hui
oui, effectivement.
Votre anniversaire. Vous êtes né le 7 janvier, c'est la première ligne du livre. Le 7 janvier, le jour de mon anniversaire, de celui de mon père aussi, une date désormais maudite associée au massacre de Charlie Hebdo et au meurtre du policier Ahmed Merabé. Vous croyez au destin, Michel Catalano ?
Je ne sais pas si je crois au destin, mais en tout cas le destin a fait que cette journée qui, pour moi aujourd'hui, ne représente plus cet anniversaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la première chose qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à cette date depuis 10 ans. C'est vraiment ce qui s'est passé et le traumatisme que ça a créé, évidemment. Et donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de fêter un anniversaire ce jour-là. Et j'ai beaucoup de témoignages d'amis, de famille qui, évidemment, me le souhaitent. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un anniversaire qui restera, ou pour l'instant, en tout cas, je vais vers ce chemin-là, mais pour l'instant, je pense à autre chose ce jour.
Vous allez vers ce chemin-là, ça veut dire que vous allez mieux, Michel Catalano. Moi, j'ai ce sentiment à la lecture du livre.
Alors en fait, je vais mieux. Oui, effectivement. Je ne peux pas dire je vais bien, je vais mieux. C'est-à-dire que j'essaye avec... Je suis entouré d'une famille exceptionnelle et ça m'a beaucoup aidé. En fait, on essaye ensemble avec ma famille, parce que c'est important pour moi d'avoir un socle.
Votre femme Véronique, notamment.
Et ma femme Véronique, qui sans elle, j'aurais jamais réussi. On essaye de se frayer un chemin vers le meilleur.
Véronique, elle est victime comme vous, même si elle n'était pas à l'intérieur de l'imprimerie avec vous. Mais elle vit très durement tout cela depuis 10 ans. Mais
merci de le dire. Oui. Parce qu'en fait, vous savez qu'en termes techniques, on appelle ça des victimes directes et par ricochet. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu marquer dans le livre. J'ai voulu marquer qu'en fait, ça marque profondément une famille, ça marque profondément l'ensemble des amis. Mon père, ma mère qui étaient vivants à l'époque ont été blessés, ma sœur, mon frère. Enfin, ça a un rejet évident. Évidemment, ma femme, elle voyait le mal que ça représentait nuit et jour. C'est-à-dire qu'en fait, elle subissait, elle encaissait, sans pouvoir, elle, s'exprimer, parce que c'est souvent moi qu'on me faisait venir sur les plateaux, c'est souvent moi qu'on plaignait, entre parenthèses, et elle était là. Et sans elle, je ne serais jamais arrivé.
Et vous décrivez précisément ce par quoi elle est passée aussi pendant toutes ces années. Et c'est important parce que c'est vrai que spontanément, on n'imagine pas à quel point les proches peuvent souffrir. Aucun Français n'a oublié où il était ce 9 janvier 2015. Évidemment, pas vous, Michel Catalano. Il est 8h25, la porte sonne. Vous êtes en train de prendre le café avec l'un de vos employés, Lilian. Ce sont les frères Kouachi qui tapent à votre porte. Vous leur ouvrez, vous comprenez tout de suite.
C'est-à-dire, en fait, avant de l'ouvrir, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller à cette grande baie vitrée qui me permettait de voir ce qui se passait à l'extérieur. Donc j'ai vu à ce moment-là, effectivement, qu'ils étaient là, et effectivement j'ai compris très vite. Au départ, on a un espèce de moment où c'est difficile d'imaginer, mais tout de suite j'ai compris, oui. Le lance-roquettes, l'arme, tout de suite j'ai compris que c'était eux.
Et vous écrivez que la veille, vous plaisantez avec Lilian et vous vous dites « Tiens, et si les frères Kouachi se pointaient à l'imprimerie, qu'est-ce qui se passerait ?»
C'est vrai.
Il y a cette prémonition.
Il y a cette prémonition, c'est incroyable, mais vrai, on l'a cité, moi et Lilian l'a fait aussi dans son témoignage. On y a pensé la veille, et j'avoue que c'est étonnant, mais ça nous a peut-être permis d'anticiper les choses, comme quoi dans la vie, dès qu'on a un petit peu d'avance sur les faits, on est toujours, c'est toujours mieux. Et donc finalement, je ne regrette pas d'avoir eu cette pensée, même si à un moment donné, j'ai trouvé ça pas très bien.
Vous en blaguez
J'en blague.
Mais c'est peut-être pour dédramatiser aussi la veille, parce qu'il y a cette peur déjà qui est là.
Oui.
On sait que les frères Kouachi sont autour de Dammartin, ou en tout cas dans la région. Moi, je dis les frères Kouachi, vous ne dites pas leur nom.
Non.
Les terroristes.
Non, voilà. Je dis les terroristes, les assassins, parce que je n'ai pas réussi encore aujourd'hui à le faire et à le dire. Donc non, effectivement, pour moi, c'est important de... pour moi, en face de moi, c'était la mort. Donc pour moi, elle n'a pas le nom. Le mot suffit de dire la mort, c'est déjà d'une violence extrême.
Et tout de suite, vous dites à Lilian d'aller se cacher. Qu'est-ce qui... est-ce que vous avez compris d'ailleurs ? Pourquoi vous lui dites d'aller se cacher et vous n'allez pas vous cacher ? Est-ce que c'est une question que vous posez toujours aujourd'hui ?
C'est une question que j'ai compris avec mon psy. Ouais. En fait, j'ai pas compris parce qu'il m'a posé la question, il m'a dit pourquoi vous voulez mourir ce jour-là. Et en fait, j'avais pas du tout l'intention de mourir.
Votre psy vous dit ça. Pourquoi est-ce que vous, Michel Catalano,
vous vouliez mourir
le 9 janvier 2015 ouais,
Donc ça, cette question m'a interloqué. J'ai dit ben non, j'ai pas du tout envie de mourir, au contraire. Mais en fait, c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir faire quelque chose pour mon collaborateur qui est jeune, qui a 26 ans. Qui se retrouve dans une situation qu'il ne méritait pas. C'est un gamin adorable. C'était pas possible de voir dans ses yeux la peur, la mort qui pouvait... Donc j'ai trouvé cette solution-là. Je dis cache-toi parce que je pensais qu'il valait mieux qu'il se cache, qu'il n'affronte pas ça et je voulais être tout seul. Parce que moi j'étais persuadé que j'allais mourir vite. Donc je voulais faire quelque chose pour essayer de faire en sorte qu'il se sorte vivant de ce cauchemar.
Il y a des échanges avec les terroristes, on va les appeler ainsi, et ils vous demandent notamment, est-ce que vous êtes juif ? Et vous, vous répondez, non, je suis français d'origine italienne. Est-ce que vous êtes interrogé sur
J'ai fait que ça, en fait.
Phrase.
J'ai pas compris, puisque jamais je n'avais répondu ça. Et en fait...
À personne.
Jamais, quand on me demandait si j'étais catholique ou juif, ou, jamais je répondais ça. Et en fait, là, j'ai répondu ça instantanément. Et on a des capacités face à, on peut dire, la mort, face à des moments extrêmement complexes et difficiles qu'on n'imagine pas. Parce que, en fait, quand il m'a posé la question, j'ai analysé la question dans mon cerveau et je me suis dit, il faut que je réponde quelque chose du plus neutre possible. Et en fait, c'est ce qui m'est sorti instantanément.
Mais pourquoi est-ce que vos origines italiennes ressortent à ce moment-là ?
Bah, pouvoir dire, mais dans ce que j'ai compris et analysé après, c'est dire, bah, vous savez, voilà, moi aussi je suis un immigré. Enfin, essayer d'avoir un mot pour expliquer ça, en fait.
Et ça donne lieu à de très beaux passages dans votre livre, L'imprimeur de Dammartin. Vous partagez les souvenirs de votre famille, les origines de votre famille, votre père, qui est né dans une famille de métayers du sud de l'Italie, je crois que c'est en Basilicate. C'est et vraiment, les lignes sont très belles. Peut-être que ça vous a permis de renouer avec votre histoire ? Vous avez renoué avec votre histoire ces dernières années ?
Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé très vite après 2015, en fait, tout revenait à cette journée. Tout. Et un jour, mon psy m'a dit « Mais vous êtes qui, en fait ? Qui êtes-vous ? » Et en fait, cette question, je me suis dit « Mais oui, en fait, qui suis-je ? Je ne suis pas simplement cet otage. J'ai un vécu, j'avais 48 ans, j'ai toute une vie. Et en fait, j'avais complètement oublié cette vie. » Elle avait disparu de mon cerveau. Et en fait, il a fallu que je me la réapproprie, que je me réapproprie qui j'étais. Et c'est pour ça que j'ai affirmé Michel Catalano, en fait. C'était important pour moi de réexister.
Victime, héros, survivant aussi. Vous racontez qu'au bout de quelques heures, vous sortez, vous demandez aux terroristes si vous pouvez sortir. Vous sortez, et là, on comprend, Michel Catalano, que les gendarmes ont été à deux doigts de vous abattre. Ce jour-là.
Ce jour-là, ça a été compris. En fait, j'ai compris après en discutant aussi avec d'autres gendarmes, parce que c'était aussi important de comprendre ça. C'est vrai qu'effectivement, en sortant, on me demande de me coucher ou on tire. Et en fait, sur le moment, je n'ai pas écouté cette remarque, parce que pour moi, il était évident qu'il fallait que je m'éloigne le plus possible. Parce que si je me couchais au milieu de la cour, autour de moi, il y avait. Des snipers partout, je pensais que je m'en serais jamais tiré vivant non plus.
Finalement, vous vous en tirez vivant, Lilian aussi, mais votre imprimerie, elle est détruite, 800 impacts de balles seront retrouvés, ça ce sera quelques jours après, hein. Vous verrez l'étendue des dégâts, mais juste après il y a les interrogatoires par les autorités qui ne vous ménagent pas, il y a la meute des journalistes dans le jardin, notre profession ne sort pas grandie de votre témoignage, et puis en février 2015, un mois après, vous avez rendez-vous avec les assureurs, et là vous comprenez qu'aucun cadeau ne vous sera fait.
Oui, en fait, on a besoin à ce moment-là de croire. En tout cas, moi, j'avais besoin de croire. Déjà que j'avais embarqué toute ma famille dans la reconstruction de mon bâtiment, j'avais besoin de croire. Et c'est vrai qu'on m'avait laissé entendre que tout ça allait se passer bien, qu'on allait me suivre et tout. Et je me suis rendu compte ce jour-là, comme je le décris très bien dans le livre, qu'en fait, ça allait être très compliqué. Ça allait être très difficile. Et j'ai dit à ma femme, ça va être dur, mais on lâche rien, quoi. Et c'est vrai que ça a eu un deuxième impact, un deuxième choc post-traumatique, j'allais dire, parce que ça a été difficile de remonter la pente à partir de là, parce qu'il fallait qu'on comprenne. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'on y arrive. Et on s'est serré les coudes et on a avancé quand même.
avec des cicatrices. Vous les racontez aussi dans le livre, ces proches, pas forcément les plus proches, mais qui vous disent « Mais Michel, quand est-ce que tu passes à autre chose, finalement ?»
Oui, alors, je mets ça toujours sur le compte des maladresses. Des gens qui n'ont pas été corrects, il y en a eu beaucoup. Mais je n'ai pas voulu raconter tout ça dans le livre. Mais j'ai plutôt mis l'accent sur les gens qui avaient des maladresses. Souvent, je pense qu'ils étaient sincères en disant « Mais passe à autre chose, c'est fini, c'est bon. » Mais non, en fait, ça ne marche pas comme ça. En fait. Vous pensez que j'ai envie que de ça ? En fait, j'ai envie de penser à ça, j'ai envie de cauchemarder. En fait, tout ça, j'ai envie de m'en éloigner. Mais il faut d'abord sortir du bâtiment, il faut d'abord avancer. Il y a tout un cheminement qui se fait. Vous voyez, au bout de 10 ans, aujourd'hui, à la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avant, j'étais un sportif. Cette période, j'étais plutôt toujours en très grande forme. Et aujourd'hui, le corps me rappelle...
Hockey sur gazon.
Aujourd'hui, le corps me rappelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fin d'année et en début d'année, je suis malade aujourd'hui depuis 10 ans, alors qu'avant, j'étais en pleine possession de mon corps et de ma capacité. Et le corps se rappelle en disant « Oh, attention, attention ».
Il y a tout de même des personnes qui vous tiennent, hein, qui vous aident dans ces heures difficiles. Il y a votre psy qui est là pour vous et qui témoigne d'ailleurs dans le livre. Il y a le sous-préfet de Seine-et-Marne qui ne vous lâche pas également. François Hollande aussi est là très régulièrement dans ce livre. Est-ce que votre entreprise est sauvée aujourd'hui, Michel Catalano ?
Alors écoutez, elle est un peu comme nous, elle va mieux. On essaye d'aller vers le meilleur. C'est vrai qu'on a aussi eu la Covid, on a eu tout encore l'histoire d'une entreprise. Elle va mieux, c'est la première année en 2024 qu'on va retrouver un chiffre d'affaires qui va être équivalent à ce que j'avais avant 2015. Donc pour ça, je suis content aussi. Donc ça me fait beaucoup de choses qui pour les 10 ans, ont été dans le sens positif, c'est-à-dire un meilleur chiffre d'affaires, un livre, un documentaire aussi qui passe sur France 2 ce soir. Qui aussi m'a fait beaucoup de bien. Ça n'a pas été facile.
Vous avez prévu de revoir Lilian, votre ancien employé, ces jours-ci ?
Alors, je le vois régulièrement. Pas toujours dans cette période-là. Ouais. Et je le vois régulièrement, oui. On a un lien qui dépasse ce que l'on peut imaginer. Voilà.
Je n'ai plus ni rêve ni cauchemar, mais j'espère retrouver le fil de ma vie. J'aspire maintenant à un bonheur simple en famille avec ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. C'est à lire dans l'imprimeur de Dammartin aux éditions du Cherche Midi. Merci infiniment, Michel Merci Catalano, d'avoir été l'invité de ce 13-14. L'épreuve d'une vie, Michel Catalano face au Kouachi, c'est donc ce soir sur France 2 à 23h15. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
Quel est le programme de la Terre au carré dans
On
les prochaines minutes ?
On part au Jurassique dans un instant.
À tout de suite, 14h sur Inter.